Bonjour frères et sœurs, que notre Seigneur vous bénisse richement et que sa parole puisse vous faire du bien. Aujourd'hui, nous allons voir l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 1, versets 11 à 23. Dans ce passage, l'apôtre Paul raconte succinctement comment Dieu a changé sa vie pour qu'il accomplisse l'œuvre à laquelle il a été appelé. Il donne son témoignage pour prouver que l'évangile qu'il a reçu vient de Jésus-Christ lui-même et non d'un homme. Tout chrétien doit être capable de dire en quelques mots ce que Dieu a fait dans sa vie, comment il est devenu chrétien, comment il est devenu un enfant de Dieu. Le témoignage de l'apôtre Paul nous servira d'exemple pour qu'à notre tour, nous puissions rendre témoignage de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Donc nous serons encouragés à ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de rendre témoignage de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Dans les 10 premiers versets de Galates chapitre 1, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Galates donc pour défendre son titre d'apôtre et pour combattre cette fausse doctrine qui voulait que les chrétiens d'origine païenne, donc les non-juifs, qui recevaient Jésus-Christ dans leur cœur, que ces personnes, ils disaient que ces personnes devaient se soumettre à la loi de Moïse et au rite juif, notamment la circoncision, pour être sauvés. Donc l'apôtre Paul va commencer son plaidoyer en rappelant qu'il n'y a pas d'autre évangile. Et dans le message précédent, nous étions exhortés à rester attachés à l'évangile de Christ que nous avons reçu, parce qu'il vient de Dieu lui-même, et Dieu a utilisé ses apôtres pour nous transmettre sa parole. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul insiste pour dire que son évangile vient de Jésus-Christ. Et nous devons rester attachés à l'évangile de Christ que nous avons reçu parce que l'œuvre accomplie par Jésus-Christ est toute suffisante. Jésus-Christ s'est donné lui-même, il est dit, pour nos péchés et il nous a arrachés de ce présent siècle mauvais. Nous devons rester attachés à l'évangile parce qu'il n'y a pas aussi d'autres évangiles. Donc l'apôtre Paul il dit que celui qui annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Voilà, donc maintenant l'apôtre Paul va donner en quelques mots son témoignage pour rappeler que cet évangile qu'il a reçu ne vient pas d'un homme, mais vient de Dieu. Alors lisons ensemble ce passage de Galates chapitre 1 verset 11 jusqu'à la fin au verset 24. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Un témoignage, c'est l'action de rapporter un fait, rapporter un événement, en attestant sa réalité, en attestant sa vérité. L'apôtre Paul va rapporter comment il a reçu personnellement Jésus-Christ et pourquoi l'évangile qu'il a annoncé ne venait pas d'un homme, des autres apôtres en l'occurrence, mais de Jésus-Christ. L'événement central dans la vie de Paul est sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas et l'acceptation de celui-ci dans son cœur comme sauveur et seigneur. C'est ce qu'on appelle la conversion. Et j'aimerais qu'on lise cela dans Actes chapitre 9, versets 1 à 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi. » Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. C'est ainsi que lorsque les Actes des Apôtres nous rapportent comment l'apôtre Paul a rencontré Jésus-Christ, comment le Seigneur Jésus-Christ est apparu à l'apôtre Paul. Et donc, pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie, l'apôtre Paul parle dans notre passage de sa vie avant sa conversion, dans les versets 13 à 14. Il va parler du jour de sa conversion, dans les versets 15 à 16, mais aussi de sa vie après sa conversion, versets 17 à 24. Alors, dans ces passages, il ne donne pas beaucoup de détails. Il faudrait lire d'autres passages dans les Actes des Apôtres, où il a des occasions de rendre témoignage de ce que Jésus-Christ a fait, notamment dans Actes chapitre 22 ou Actes chapitre 26. Et donc, nous avons lu aussi ce texte de Actes chapitre 9. La conversion est le fait de changer de direction. Lorsqu'une personne se convertit à Jésus, Dieu donne à la vie de cette personne une autre direction. Le Seigneur apporte une transformation radical dans la vie de cette personne. Et la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On trouve cela dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Donc toute personne convertie, toute personne qui s'est tournée vers Dieu, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme sauveur et seigneur, toutes ces personnes a un témoignage à rendre et doit être prêt à dire en toute occasion ce que le Seigneur a fait pour elle. Dans Actes chapitre 4, verset 20, il dit « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » C'est ce que disaient les apôtres. Ils ne pouvaient pas ne pas parler de ce qu'ils ont vu et entendu. Donc oui, il y a forcément des occasions que Dieu nous donne où nous pouvons parler de ce que le Seigneur a fait pour nous. Ce que Dieu a racheté et délivré de la main de l'ennemi doivent dire ce que l'Éternel a fait pour leur âme. C'est ce que nous dit le psaume chapitre 107 qui dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer, etc. Oui, donc louez l'Éternel, rendez gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, mais que nous puissions aussi dire ce que Dieu a fait pour nous. Le témoignage de l'apôtre Paul nous montre que la conversion est un miracle que Dieu opère dans la vie d'une personne parce qu'elle est une offre réservé à tous, quelle que soit sa vie passée. La conversion est voulue par Dieu de manière souveraine, mais aussi elle est pour la gloire de Dieu. Alors, ce que nous pouvons lire dans ce passage du témoignage de l'apôtre Paul, et dans un premier temps, nous allons voir ce qui s'est passé dans sa vie avant sa conversion. Dans les versets 13 à 14, il dit vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc là, l'apôtre Paul, il résume sa vie, on peut dire en deux mots, en deux adverbes, il dit « autrefois et maintenant ». Entre les deux, entre ce « autrefois et maintenant », il y a ce moment où il a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Sa vie avant sa conversion se traduit par autrefois. Lorsqu'il parle de sa vie avant sa conversion, il parle d'autrefois. Et ce que nous pouvons lire dans les Actes des Apôtres nous dit que autrefois, il persécutait à outrance et ravageait l'Église de Dieu. Donc, il était déterminé à anéantir l'Église de Dieu parce que pour lui, ces personnes, ces chrétiens, formaient une secte. Pour lui, Jésus-Christ était un imposteur. Jésus-Christ a été crucifié, qu'il était mort. Pour lui, ces personnes qui disent que Jésus-Christ est ressuscité, c'est pas vrai. Dans Actes chapitre 8, verset 1, il est dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Au chapitre 9, verset 1, il dit cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Dans Acte 22, verset 4, quand il donne son témoignage, il dit « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Au chapitre 26, alors qu'il donne son témoignage au roi Agrippa, il dit « Quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. » Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 13, Paul dit qu'il agissait par ignorance et dans l'incrédulité. C'est son zèle pour les traditions de ses pères qui l'a poussé à persécuter les chrétiens. Dans le texte d'Actes chapitre 26 verset 9 à 10, il dit que pensant faire la volonté de Dieu, il dit « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. » Donc pour lui, il avait cette conviction que les chrétiens, c'était des trompeurs, c'était des imposteurs, Et donc, pour lui, il pensait faire la volonté de Dieu. Il était zélé pour Dieu, mais il se trompait. Donc, pour Monsieur Tout le Monde, l'apôtre Paul était un modèle à suivre. Il était plus avancé dans le judaïsme que les autres de son âge. Élevé et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte dans la loi, il dit. Il était animé de zèle excessif pour les traditions de ses pères. Il était un homme respecté, car considéré comme un chef religieux. Sa progression dans le judaïsme était fulgurante. Donc voilà, c'était le juif modèle, celui qui voulait servir Dieu, qui était attaché à la loi de Dieu. Pour lui, il pratiquait les bonnes œuvres en vue d'essayer donc de gagner son salut. Plus il avançait dans le judaïsme et plus il persécutait les chrétiens. Peut-être était-il un carriériste, on va dire, qui était prêt à tout pour parvenir à ses fins, pour pouvoir gravir les échelons. Il était zélé. Peut-être, tout simplement, il avait cet amour pour Dieu, pour la loi de Dieu. Mais malgré tout cela, Paul n'était pas sauvé. Il avait besoin de faire cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Donc on peut se poser cette question, mais comment Dieu a-t-il pu sauver un homme comme lui? Comment Dieu a pu sauver un homme qui persécutait les chrétiens? Comment Jésus a-t-il pu dire à ce brigand aussi sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis » dans Luc chapitre 23, verset 43. Comment Dieu a-t-il pu sauver un homme tel que moi qui vous parle, Tony Avril? Comment Dieu a-t-il pu sauver un homme tel que moi? Et je pense que chaque chrétien doit dire, mais comment Dieu a-t-il pu sauver un homme tel que moi? Ou une femme telle que moi? La Bible nous dit que, dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, il dit que Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dans Romains chapitre 5 verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Jean 3, 16 nous dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la vie de tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, tout comme l'apôtre Paul l'a fait, il y a aussi pour nous un autrefois. Il y avait pour l'apôtre Paul un autrefois. Le Saul, il s'appelait Saul, celui qui persécutait les chrétiens, qui était zélé pour la loi, etc. Et il a fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et sa vie a changé. Et si Dieu a sauvé un homme tel que Paul, il peut aussi vous sauver. Il n'y a pas de péché qui soit trop grand qu'il ne puisse pas pardonner. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est lui-même une victime expiatoire dédiée pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc c'est pour vous aussi que Jésus-Christ a donné sa vie. Il a été cette victime qui a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui votre péché pour que vous puissiez être pardonné. Mais la Bible vous dit de faire comme l'apôtre Paul, reconnaître que Jésus-Christ est ressuscité et que vous puissiez dire, oui Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si vous avez placé votre confiance en Jésus, aujourd'hui, à partir de cela, lorsque vous parlerez de votre vie passée, vous direz aussi autrefois. Oui, autrefois, voilà ce que je faisais. Quelle était ma vie? Mais maintenant, en Jésus-Christ. Voilà ce que je suis. Le témoignage de l'apôtre Paul nous encourage à ne point avoir honte de dire qui nous étions, ce que nous faisions autrefois, avant notre conversion. Bien que l'on doit en avoir honte de tout cela, n'est-ce pas? Mais si nous disons ce que nous avons fait autrefois, l'apôtre Paul, il a dit, il a persécuté l'Église, etc. Si on le dit, c'est pas parce qu'on ne cherche pas à se glorifier, on veut glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et si on peut noter, frères et sœurs, que l'apôtre Paul consacre très peu de lignes relatant ce qu'il a fait avant sa conversion. On peut compter 2 versets sur 12 à peu près. Donc, ce n'est pas la partie du témoignage sur laquelle il faut le plus s'étendre, ce qu'on a fait avant. Oui, on peut le dire. Parfois, il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles. Parfois, il faut le dire, parfois, il faut pas le dire. Ça dépend des circonstances. Mais quand on cherche à glorifier Dieu, dire ce que Dieu a fait pour nous, on ne doit pas avoir honte de dire ce que Dieu a fait pour nous. Quelle était notre vie? On doit avoir honte de ce qu'on a fait dans le passé, mais on ne doit pas avoir honte de le dire pour la gloire de Dieu. Et si c'est pour alimenter la médisance, de dire, voilà, ce qu'on a fait dans le passé, cela n'a pas d'intérêt. Dans certains cas, vaut mieux éviter de dire certaines choses qui doivent rester entre Dieu et vous, entre Dieu et nous. Chacun a une vie passée et chacun sait ce que Dieu a fait pour lui, d'où le Seigneur l'a tiré. Et parfois, il est bon de dire des choses parce que ça peut encourager un autre qui a peut-être connu la même chose et que l'autre puisse entendre et dire oui, mais lui, il a fait ça, Dieu l'a sauvé, donc Dieu peut me sauver aussi. Donc que le Seigneur donne la sagesse pour dire ce que on doit dire de ce qu'on a fait avant notre conversion. Mais on ne doit pas avoir honte, frères et sœurs, de parler de notre vie avant notre conversion. Puisque cela montre plusieurs choses. Cela montre que l'on est conscient du péché dans lequel nous vivions autrefois. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 et 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Oui, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Oui, on est conscient du péché dans lequel nous vivions autrefois. Oui, voilà comment je vivais autrefois. Je vivais dans le péché. J'étais ennemi de Dieu. Cela montre aussi que l'on se rappelle qu'on a demandé pardon à Dieu, la repentance, n'est-ce pas? Et que Dieu nous a pardonné. Oui, je vivais dans le péché, j'ai commis des péchés, mais Dieu m'a pardonné. Dans Proverbes chapitre 28, verset 13, il dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, il dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Oui, Dieu nous a pardonné. Nous avons demandé pardon à Dieu et nous savons qu'il nous a pardonné parce que c'est pour ces péchés-là que Jésus-Christ est allé sur la croix. Il a été crucifié à cause de ses péchés. Il a été crucifié pour nos péchés. Et donc, en croyant en Jésus-Christ, Dieu nous pardonne. L'autre chose, c'est qu'il faut pas avoir honte de parler de sa vie avant sa conversion parce que l'on reconnaît la grâce de Dieu dans notre vie. On sait que si on est là maintenant, si on peut parler de maintenant, c'est parce que Dieu a usé de grâce envers nous. Il nous a pardonné et chaque jour, il nous donne la victoire sur le péché. Chaque jour, il nous permet de vivre une vie qui l'honore et qu'il nous donne la force aussi pour ne pas retomber dans ces péchés, pour ne pas reproduire les choses du passé. Donc, oui, on reconnaît la grâce de Dieu dans notre vie. L'apôtre Paul, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 9 à 10, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Par la grâce de Dieu, il dit « Je suis ce que je suis. » Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et dans notre passage de Galates, il va montrer qu'il n'est pas moins que les autres apôtres. C'est pas parce que lui, il a persécuté l'Église qu'il est moins que Pierre, qu'il est moins que Jacques et Jean. Et justement, il va le montrer par la suite. Puisque Dieu a usé de grâce envers lui, tout comme il a usé de grâce, il a fait grâce à Pierre, il a fait grâce à Jean. Chacun avait aussi leur passé, avait leur péché, et Dieu a pardonné, Dieu a fait grâce. Et donc lui il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. L'autre chose que nous ne devons pas avoir honte de témoigner, de dire quelle était notre vie passée, parce que cela montre que l'on veut donner à Dieu toute la gloire et pour toute la gloire pour ce qu'il a fait de nous maintenant. 1 Timothée chapitre 1 verset 12 nous dit je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Oui, il rend grâce à Dieu parce que le Seigneur l'a fortifié. Il rend grâce à Dieu parce que le Seigneur l'a jugé fidèle. Le Seigneur l'a établi dans le ministère, malgré tout ce qu'il a pu faire dans le passé. Oui, il veut donner gloire à Dieu. Et maintenant, ce qu'il veut faire, c'est servir son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Parce qu'il sait d'où le Seigneur l'a pris. Quelle était sa vie avant. Et donc maintenant, sa vie, c'est de glorifier Dieu. Êtes-vous prêt à accepter l'offre de Dieu aujourd'hui? Êtes-vous prêt à accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur? Quelle que soit cette vie passée que vous avez, le Seigneur a été crucifié sur cette croix pour vous. Dieu veut que vous soyez sauvés. Il veut que vous ayez la vie éternelle. Votre vie changera si vous acceptez de placer votre confiance en Jésus-Christ qui est mort pour vos péchés, comme aussi pour ceux de l'apôtre Paul. Et si Dieu a sauvé Paul ou n'importe qui, vous qui m'écoutez, si Dieu a sauvé l'apôtre Paul, si Dieu m'a sauvé, il peut aussi vous sauver. À vous de dire, oui, j'accepte. Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie pour moi parce que je suis un pécheur. Parce que comme Paul, voilà quelle est ma vie. Et si je donne à Jésus-Christ ma vie, si je m'humilie devant lui, si je lui demande pardon pour mes péchés, alors ma vie, elle va changer. Et pour nous, frères et sœurs, qui donc avons placé notre confiance en Jésus-Christ, soyons prêts à rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour nous. Et donnons-lui gloire en ne vivant plus comme autrefois, mais en nous souvenant que maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Donc marchons, vivons comme des enfants de lumière. en nous rappelant de ce que le Seigneur a fait pour nous, nous rappelant d'où il nous a tirés. Et que lorsque le Seigneur nous donne la possibilité de témoigner et de dire oui, moi aussi j'étais comme cela. Et le Seigneur m'a sauvé. Il peut te sauver aussi. Donc oui, n'ayons pas honte de rendre témoignage. N'ayons pas honte de dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Que son nom soit béni. Nous allons voir par la suite de ce témoignage. Voir comment le Seigneur a sauvé Paul le jour donc de sa conversion, mais aussi comment il a vécu ses premières années de vie chrétienne. Que le nom du Seigneur soit béni, à lui seul toute la gloire. Amen.